C'est parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Content de vous retrouver. Ça devient désormais un rendez-vous hebdomadaire sympathique. J'espère que ce soit aussi pour vous, que ce ne soit pas un pensum trop dur de passer 2 heures à faire de la théologie le mardi soir. Et alors, vous savez que l'objectif est celui de rentrer peu à peu dans l'intelligence de la vie sacramentelle. Et donc, nous sommes un peu au début. Nous sommes au début des sacrements de l'initiation et nous étions donc en train de regarder les rituels actuels, celles avec lesquels on célèbre l'initiation. Je vous rappelle une fois de plus que peut-être que je vais déjà partager l'écran pour vous montrer le plan. Voilà, vous vous rappelez du plan qu'on avait distribué la dernière fois. Donc, nous avions regardé ensemble le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Et ce soir, nous allons continuer ce parcours sur l'initiation en regardant de plus près le rituel du baptême des petits-enfants et le rituel de la célébration de la confirmation. On fera ça dans la première partie du cours. Et puis, dans la deuxième partie du cours, nous allons commencer à traiter l'Eucharistie en tant que sacrement central de la vie chrétienne. Pourquoi il est central? Tout simplement parce qu'il est, je le rappelle une fois de plus, il est l'aboutissement des sacrements de l'initiation. C'est par l'Eucharistie que l'initiation se termine. Habituellement, nous avons déjà vu que parfois il peut y avoir des exceptions dans les pratiques pastorales. Parfois, on peut avoir la confirmation comme achèvement, ce qui est peut-être assez commun, mais qui n'est pas tout à fait ajusté du point de vue théologique. Et donc, nous regarderons cela et les deux autres rituels, et puis nous attaquerons en deuxième partie l'Eucharistie comme sacrement, justement, qui achève et qui entretient la vie chrétienne, qui entretient la vie chrétienne. Donc, nous avions commencé la dernière fois par le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Je voudrais juste vous rappeler quelque chose d'important, c'est que même si vous regardez les dates, désormais vous savez de quoi il s'agit, les premières dates les plus anciennes, si je peux dire, sont celles de la publication des différents rituels, mais en langue latine, qui est la langue officielle, du moins dans la liturgie de l'Église, et puis les autres dates sont celles de l'adaptation en langue française. Donc, je vous ai montré rapidement le rituel la dernière fois, je vous montrerai aussi les autres rituels dont nous parlerons. Eh bien, vous remarquez que, par exemple, le sacrement du rituel des baptêmes des petits-enfants a été publié en 69, celui de la confirmation en 71 et celui de l'initiation chrétienne des adultes en 72. Donc, effectivement, si je regarde les dates, je peux déjà constater une chose et je voudrais vous faire part de cela. Tout d'abord, retenez ceci. Effectivement, le rituel le plus important, c'est celui qui est retenu comme étant le plus significatif du point de vue de son expression théologique et naturellement rituelle, et depuis le Concile Vatican II, le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Pourquoi il est important? Parce que nous en avions parlé peut-être l'une ou l'autre fois, parce que si nous considérons de près l'acte baptismal, dirait Benoît XVI, l'acte baptismal en quoi consiste? Consiste en une adhésion à la personne du Christ, hein? Donc c'est là une sorte d'acte de foi, je crois, nous l'avions trouvé dans le récit de l'eunuque de la reine de Candace, vous vous rappelez, oui, je crois, le Christ, Jésus est le Fils de Dieu. Eh bien, tout acte baptismal est toujours cette adhésion que l'on exprime vis-à-vis de la personne du Christ par un acte de foi, je crois. Qui est scellée, cette adhésion, qui est scellée par un geste, qui est celui de la plongée baptismale. Parfois, on a vu dans les Actes des Apôtres, par une imposition des mains sur celui qui demande justement d'adhérer à cette foi au Christ. Eh bien, dans le jeu, si je peux dire, du dialogue, crois-tu? Oui, je crois, hein, qui est à la base de toute dynamique sacramentelle, eh bien, le rituel de l'initiation chrétienne des adultes est le plus représentatif. Pourquoi? Tout simplement parce que celui à qui il s'adresse est un adulte. Et donc, il peut sciemment, avec toute sa conscience, sa liberté, répondre d'emblée à l'invitation qu'on lui fait de croire au Christ. Donc, première chose à repérer. Et puis, parce que, deuxième aspect, pourquoi le plus important, parce que justement, il étale, nous l'avons vu dans le tableau qu'on a montré la dernière fois, celui-ci, vous vous rappelez, dans son ordre rituel, dans sa dynamique rituelle, il est même, je dirais, le seul rituel des sacrements qui étale, qui développe, qui met en œuvre l'initiation de manière progressive dans le temps, par des étapes, dans un long temps. Et donc, du coup, il y a là l'idée d'un processus d'initiation, de quelque chose qui est dynamique, de quelque chose qui est à reprendre tout le temps, hein. Et même s'il fallait définir ce type d'initiation, on pourrait dire qu'effectivement, cette initiation commence bien avant la première étape, commence par le temps de la première évangélisation, mais elle est marquée par des étapes qui font entrer peu à peu celui qui doit être initié dans la prise de conscience de sa démarche et de la grâce qui lui est offerte. Vous voyez, donc c'est de l'ordre de l'expérience, d'une expérience qui passe par le corps. Je ne sais pas si on l'avait dit la dernière fois, mais peut-être je le redis si je l'avais dit ou je le dis la première fois. Les étapes pour le rituel d'initiation des adultes sont très importantes parce que vous aurez remarqué, sont celles qui sont marquées la plupart du temps par une ritualité forte, n'est-ce pas? Donc il y a une ritualité qui est à la fois ecclésiale, les étapes sont toujours des moments de rassemblement de la communauté du lieu, de la paroisse, de la cathédrale, des lieux dans lesquels la vie de l'Église est vécue. Et donc, elle marque par la ritualité cet avancement dans la foi au Christ. Et donc, effectivement, le rituel d'initiation chrétienne des adultes est retenu théologiquement le plus accompli pour toutes ces raisons, pour les raisons que je viens de dire. J'insisterai sur une autre chose qu'on verra aussi pour les autres sacrements. Bien sûr, le rituel d'initiation chrétienne des adultes permet à la personne de vivre une initiation qui se passe dans la période, si je peux dire, on avait dit 2 ou 3 ans, la plupart du temps c'est 2 ans, mais parfois 3 ans. Donc, on a un temps long pour pouvoir être initié. Mais ça ne veut pas dire, et j'insiste beaucoup sur cela, que quand on arrive à la réception des sacrements, c'est-à-dire à la troisième étape dans la célébration des sacrements d'initiation ou après le temps de la mystagogie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on ferme le rituel que l'initiation est terminée. L'initiation est bien sûr terminée, mais l'engagement dans la vie chrétienne ne fait que commencer. Hein? Donc la conversion qui avait été éprouvée pendant toutes ces périodes, les 2 ans ou 3 ans d'initiation, continue en vérité. Et donc, on pourrait dire que les sacrements de l'initiation, le rituel d'initiation chrétienne des adultes, ne fait qu'inaugurer cette démarche ou cette attitude de conversion qui est en vérité continue, qui continue dans la vie chrétienne, qui doit être reprise tout le temps. J'aime bien, pour que vous compreniez de ce que je veux dire, j'ai bien évoqué une expression qui nous vient d'un père de l'Église, donc d'un évêque du IVe siècle, qui s'appelait Grégoire de Nice, avec deux S, pas de Nice la ville, mais de Nice dans la Turquie actuelle, donc dans la Cappadoce de l'époque au IVe siècle. Et Grégoire de Nice, en parlant de la vie spirituelle, il disait à peu près, je n'ai plus la phrase, ces mots à la lettre, mais il disait à peu près, qu'est-ce que c'est la vie spirituelle plutôt? La vie spirituelle est un commencement, c'est aller d'un commencement à un commencement, vers un commencement qui n'aura jamais de fin. Et donc, d'un commencement à un commencement, vers un commencement qui n'aura jamais de fin. Et selon lui, entre autres, il avait cette intuition théologique qui est unique hein, dans la vision théologique même actuelle, c'est que même quand nous serons délivrés de notre vie terrestre ou quand nous quitterons notre tas de vie terrestre et que nous serons probablement en face dans la vision de Dieu, bien, selon lui, même dans cet état de vision de Dieu, nous grandirons. Il y aura toujours des commencements qui continueront dans cette connaissance de Dieu. Quelque chose d'infini. Et donc, pour revenir au rituel d'initiation chrétienne des adultes, j'insiste beaucoup, ce n'est pas parce qu'on termine par le temps de la mystagogie et qu'on ferme le rituel que le baptisé, que nous sommes, je vous fais remarquer, donc chacun de nous, ce n'est pas qu'on a fini de nous convertir le jour de notre baptême. Nous continuons à nous convertir et à faire grandir la grâce baptismale. Mais ce qui est évident, c'est que pour le baptême d'un adulte, cela commence bien en tant qu'adulte, c'est-à-dire à un moment précis de la vie d'un adulte, et que, justement, on en a pleine conscience, on y participe, disons, librement, au sens qu'on y donne, on y adhère par la liberté, et on y adhère par la participation corporelle à tous les rites. Par contre, quand on pense au rituel du baptême des petits-enfants, on y reviendra pour le regarder de plus près, mais nous sommes là pour comprendre les différences de situations, des différents rituels. Eh bien, pour un rituel du baptême des petits-enfants, il est évident qu'un petit enfant, nouveau-né par exemple, ou même de 2 voire 3 ans, ne peut pas dire sa foi. Donc, il remet, si je peux dire, dans les mains, ou il rend responsable, il rend comme témoin de sa foi, plutôt les parents et l'Église elle-même. Donc, la tradition théologique de l'Église catholique romaine, qui se fonde, entre autres, sur la vision théologique des pères de l'Église latins, notamment Augustin, dit sur la parole d'Augustin que un nouveau-né est baptisé dans la foi de l'Église, hein, dans la foi de l'Église. C'est ça qui rend quelque part efficace, dynamique, cet acte baptismal. Mais, bien sûr, ce moment donc, du baptême d'un nouveau-né est marqué par un jour, c'est un jour qu'on le baptise. Mais en vérité, l'initiation, encore plus que pour un adulte, doit se développer tout au long de la vie et il doit y avoir un moment précis de la vie quand on prend conscience du don qu'on a reçu qu'il faut mettre en valeur et en acte cette initiation, cette grâce reçue le jour du baptême. Donc vous voyez, il y a toujours une inauguration de cette foi au Christ à un moment donné, mais elle devra être confirmée, si je peux dire, à un moment donné pour des enfants qui ont reçu justement le baptême quand ils étaient nouveau-nés. Et la même chose, on peut la dire pour la confirmation, c'est-à-dire la confirmation ne vient que achever, confirmer, si nous voulions retenir le mot de confirmation, ne vient qu'achever la grâce baptismale, donc le don de l'Esprit reçu au baptême et un jour confirmé ou achevé par le geste de l'onction et de l'imposition de la main le jour de la confirmation. Et alors, une fois tenu compte de la manière dont l'initiation se fait à partir de ces trois sacrements, pourquoi du coup on avait édité d'emblée le plus tôt possible le rituel du baptême des petits-enfants, après celui de 71 et puis 72, parce qu'effectivement, pendant la période du Concile, quand on décide de promulguer ou d'écrire ces trois rituels, la pratique du pédobaptisme, et donc du baptême des petits-enfants, et la pratique de la confirmation était quand même majoritaire par rapport au baptême d'adultes. Et donc, il fallait tout d'abord répondre pastoralement à ceux qui déjà existaient, et donc essayer de mettre en œuvre des rituels qui permettaient de renouveler les pratiques baptismales pour ceux qui étaient les majoritaires. Et puis donc, on a édité le rituel de l'initiation chrétienne des adultes qui, entre autres, probablement a demandé plus de temps aussi pour être écrit et pour être rédigé. Et donc, nous sommes là en face, notamment pour le rituel du baptême des petits-enfants, d'un rituel que l'Église n'a jamais connu dans son histoire. Il faut que vous sachiez ça. C'est-à-dire, au cours de son histoire, l'Église, je dirais toute Église, même les Églises orthodoxes encore aujourd'hui, n'ont pas, nous n'avions pas, et les Églises orthodoxes encore aujourd'hui n'ont pas, un rituel destiné à proprement parler à des enfants. La plupart d'entre nous ici présents, j'imagine, a été baptisé bébé, s'il y a des exceptions, tant mieux. Mais la plupart doivent être baptisés bébés, et la plupart d'entre nous a dû être baptisés avant le Concile Vatican II. Eh bien, avant le Concile Vatican II, le baptême avec lequel nous avons été baptisés était un baptême qui était un rituel qui, en vérité, était destiné à des adultes. C'est un concentré de l'initiation des adultes, accumulé dans l'histoire. Donc, on l'avait concentré. On était baptisé un matin, généralement, et donc ce n'était pas vraiment un rituel pensé pour des enfants. Alors que le Concile Vatican II demande vraiment de concevoir et d'écrire un rituel pour les petits-enfants, en tenant compte de l'état des petits-enfants. Et nous verrons que tout de suite qu'on a pris des précautions, on a pris parti de certains choix qui permettent effectivement de penser ce rituel pour les petits-enfants. Alors que, et puis je n'en parlerai plus au moins, le rituel de l'initiation chrétienne des adultes était quelque chose en vérité qu'on connaissait, qui était crypté dans le rituel destiné à la plupart du temps des petits-enfants, mais qui devait être étalé dans le temps et donc qu'on a pu retrouver de la manière dont nous avons vu. Et si vous l'avez remarqué, l'ordre rituel, si vous en avez le temps, je ne sais pas si vous l'avez pu le faire, mais comparer cet ordre rituel à celui que je vous avais montré du IVe siècle, c'est pratiquement la même idée, c'est-à-dire on s'est inspiré des pratiques de l'Antiquité pour rédiger ce rituel des adultes. Mais je m'arrête donc, je rentre pour présenter le rituel du baptême des petits-enfants. Et d'abord, avant de parler de ce ordre, de l'ordre rituel, je voudrais parler donc des notes doctrinales et pastorales. Donc d'abord, je vous le montre, si j'y arrive, si j'y arrive, oui, voilà. Vous le voyez, c'est ce rituel-là, en couverture cartonnée. Donc, vous aurez remarqué que tout rituel, vous voyez, il y a des écritures. Vous voyez rien. Eh bien, c'est trop petit, vous savez. Il faut venir ici.
On n'a pas le bon tableau de proposer.
Lequel tableau?
Vous avez le partage.
Pourquoi le partage? Vous ne le voyez pas?
Ben non.
C'est son livre qu'il montre.
Bah, je voyais juste
regardez
le livre.
Son écran.
Vous voyez mon écran?
Si, on le voit, c'est le livre qu'il montre.
Vous le voyez?
Oui.
Anne, vous le voyez?
Oui, parce que je n'avais pas l'écran, j'avais simplement le partage. Okay, merci.
Alors,
pardon.
Je voulais juste vous montrer le rituel. Je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Donc, le rituel est celui-ci, c'est pour que vous le voyez. Et donc, j'étais en train de l'ouvrir. Hein. J'étais en train de vous dire, tout rituel, je ne sais pas si vous le voyez, est à l'intérieur, entre autres, écrit en noir et en rouge. Les choses en rouge, ce qui est écrit en rouge, ce sont les choses qu'il faut remarquer et qui sont généralement destinées pour la célébration. Alors, le prêtre fera ça, le ministre fera ça, prendra ceci, il s'adressera à... Et ce qui est en noir, par contre, sont généralement les formules liturgiques, donc les textes liturgiques qu'il faut déclamer ou lire. Je reviens donc au tableau, au plan, et donc je vous avais dit la dernière fois que tout rituel, depuis le Concile Vatican II, est doté de notes doctrinales et pastorales. Je vous ai mis les numéros. Alors, je ne vous ai pas envoyé pour le rituel du baptême des petits-enfants et pour le rituel de la confirmation, je ne vous ai pas envoyé les notes doctrinales du baptême des petits-enfants. Mais si vous en avez envie, si cela vous intéresse, je peux vous envoyer, vous m'écrivez directement, j'ai déjà envoyé à quelqu'un qui me l'a demandé, les notes doctrinales et pastorales du rituel de la confirmation, mais j'ai aussi celle du rituel du baptême des petits-enfants, si ça vous intéresse, si vous devez accompagner des familles, ça peut être intéressant que vous les ayez sous les yeux. Donc, vous m'écrivez et je vais vous les envoyer. J'ai scanné ces textes. Mais pour ce soir, je vais juste vous en parler. Donc, les notes doctrinales et pastorales, qu'on appelle aussi « prenotanda », à observer avant, je vous en avais déjà parlé, sont celles qui tiennent le numéro 36 et 66. Et d'abord, ces notes soulignent l'importance du baptême des petits-enfants. Ils disent l'importance de ce baptême en spécifiant le statut propre des petits-enfants. Et puis, il souligne aussi l'importance de la pratique du baptême destiné à des petits-enfants dans la tradition de l'Église, j'y reviendrai, et l'importance de la relation entre la foi et la formation chrétienne. J'essaie de développer ces trois aspects-là. Tout d'abord, l'importance du statut des petits-enfants, c'est-à-dire, on insiste sur le fait que ce rituel est destiné à des enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison. Donc, du coup, des enfants qui ne peuvent pas répondre, qui ne peuvent pas interagir face à la catéchèse ou aux gestes que l'on propose. Par contre, on souligne, je disais, l'importance de la pratique de ce baptême dans la tradition de l'Église. Pourquoi? Parce que dans les années 60, les théologiens de l'époque débattaient, il y avait un débat autour de la question « Faut-il baptiser les petits-enfants ? Est-ce que c'est juste de baptiser les petits-enfants ? Ne faut-il pas attendre l'âge de raison pour baptiser les personnes ?» Et en gros, la théologie en est sortie en disant que ça fait partie, effectivement, de la tradition la plus ancienne de l'Église, et de, donc qu'il n'est pas question de ne pas baptiser des petits-enfants. Cela s'est prouvé par l'histoire que les petits-enfants ont toujours été baptisés. Il n'y a jamais eu un choix de baptiser que des adultes. Et enfin, la question de l'importance de la relation entre foi et formation chrétienne, en ce cas-là, extrêmement importante, parce que effectivement, on offre par le baptême aux petits-enfants le don de la foi, mais cette foi doit être développée, doit se développer, doit grandir grâce à une formation chrétienne. Et donc, c'est la vie qui permet cela. Donc, le rituel insiste sur cela. Ensuite, le rituel va parler, dans ses numéros 39 et 42, va parler des ministères et des fonctions à mettre en œuvre. Comme nous l'avions vu déjà pour le rituel des adultes, le rituel des petits-enfants souligne aussi, ce que j'appelle toujours cette révolution copernicienne. Il commence à souligner l'importance de la communauté chrétienne, du peuple de Dieu, comme étant le responsable de l'initiation des petits-enfants, de tous ceux qui demandent le baptême pour leurs petits-enfants. Et puis, ils vont de manière progressive vers les ministres à proprement parler, les prêtres, les diacres, l'évêque, ainsi de suite. Mais, et c'est ça la nouveauté du rituel du baptême des petits-enfants issu du Concile Vatican II, c'est que ce rituel-là souligne le rôle extrêmement important des parents. Et donc, des parents par rapport aux parrains et aux marraines. Donc, nous avons toujours dans notre imaginaire l'importance du parrain, de la marraine pour le baptême de petits-enfants. En vérité, là, on veut souligner que ce ne sont plus le parrain et la marraine les répondants principaux, mais ce sont d'abord les parents, les répondants de la foi de l'enfant. En particulier, le rôle des parents est explicitement précisé et révalorisé par rapport à celui des parrains et des marraines lors du rite du baptême. Alors, je vous donne quelques exemples qui illustrent cela. Tout d'abord, le rituel souligne que ce sont les parents qui demandent publiquement le baptême pour leur enfant. D'abord, les parents demandent le baptême pour leur enfant. Du point de vue rituel, ce sont eux, les parents, qui signent de la croix leur enfant après le célébrant. Ce sont les rites du début. On verra après comment se passe la célébration et vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Et puis, c'est toujours à eux, aux parents, que le célébrant s'adresse pour la rénonciation à Satan et pour l'adhésion au Christ, pour la profession de foi. Et puis, ce sont les parents qui tiennent sur les fonts baptismaux l'enfant pendant le baptême, et c'est eux qui le reçoivent après l'immersion ou l'infusion d'eau bénite, d'eau du baptême. Et puis c'est à eux qu'est le cierge allumé et allumé au cierge pascal, et c'est eux qui reçoivent à la fin de la célébration une bénédiction spéciale. Donc l'importance dans cette ministérialité diffuse, comme le montre le rituel du baptême, on souligne le rôle extrêmement important des parents. Concernant les temps et les lieux du baptême, de manière naturellement théologique et idéale, Le rituel souligne ou dit, invite à considérer la vigile pascale comme étant le temps le plus propice, le plus juste du point de vue théologique pour passer à un baptême même d'un petit enfant. Vous comprenez bien le pourquoi de la vigile pascale, nous l'avons vu pour les adultes, parce que nous célébrons la nuit pascale, la résurrection du Christ. Et donc, mais puisque cela est pas tout à fait évident du point de vue pratique, il dit, si ce n'est pas possible la vigile pascale, il faut que ce soit célébré le dimanche. Mais le dimanche, vous le savez aussi, pour nous, chrétiens, est une sorte de Pâques hebdomadaire. Hein. Tous les dimanches, nous faisons mémoire du Christ ressuscité. Et donc, le rituel dit, il faut que ce soit le dimanche, il faudrait le plus possible que ce soit au cours d'une Eucharistie du dimanche, c'est-à-dire au moment où la communauté ecclésiale est réunie pour la célébration de l'Eucharistie, et dans l'un comme l'autre cas, c'est-à-dire dimanche et célébration de l'Eucharistie, naturellement, on souligne la dimension pascale et la dimension ecclésiale du sacrement du baptême. Et puis maintenant, je voudrais vous montrer la structure de la célébration avec ses adaptations qui est déclinée ici, mais que nous allons regarder surtout. Là, c'était les numéros, ce sont les numéros du rituel, mais je vais le regarder à partir de l'ordre rituel. C'est un autre tableau que vous avez sous les yeux, mais que vous pouvez aussi regarder ici à l'écran, voilà. Un peu comme nous l'avions vu pour le rituel de l'initiation chrétienne et des adultes, j'ai essayé de vous mettre cela donc selon un ordre précis. Je vous rappelle que l'ordre rituel, ça veut dire que tout rituel comporte un déroulement, hein, donc ça vient de là, le mot ordre rituel. Et à gauche, vous avez la structure de la célébration. Vous reconnaissez d'emblée la structure type de toute célébration. Hein. Il y a un accueil, il y a une liturgie de la parole, il y a la liturgie du sacrement. Alors, on l'appelle comme ça parce que c'est la liturgie à proprement parler du baptême, advient là, même si tout l'ensemble est la liturgie du baptême, mais c'est à ce moment-là, à proprement parler, qu'on célèbre le baptême, et puis la conclusion. Alors, je voudrais vous montrer comment ça se déroule et donner un coup d'œil, je vous rendrai attentif à ça, au lieu dans lequel se passe la ritualité. Alors, je disais aussi cet après-midi, assez souvent, on ne tient pas compte de ce que dit le rituel, et on met en œuvre le rituel du baptême des petits-enfants tout près de l'autel, devant l'autel, ce qui fait que les gens restent très statiques autour de la bassine d'eau, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas un vrai baptistère assez souvent, et ne déploie pas assez l'aspect rituel. Mais on y reviendra sur cette question-là. Donc, accueil de la famille. Et vous le voyez bien, elle devrait être faite à la porte de l'église. Hein? Un peu comme nous l'avions vu, vous vous rappelez, je fais juste un détour en arrière, un peu comme nous l'avions vu pour les catéchumènes. On les accueillait à la porte de l'église hein, avant qu'ils entrent dans l'église. Et c'est pareil pour le baptême des petits-enfants, c'est à la porte de l'église que le prêtre devait sortir, lui, pour accueillir la famille et l'enfant que l'on amène au baptême par une salutation et un dialogue initial. Donc, ce dialogue qui dit tout à fait, comment on pourrait dire, qui marque la relation. Je vous lis à partir du rituel que j'ai ici. Je vous lis effectivement en quoi consiste ce dialogue. Le prêtre, le célébrant demande « Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ?» Les parents répondent. Et puis « Que demandez-vous pour Paul à l'Église de Dieu ?» Et les parents répondent « Le baptême. » Et puis « Vous demandez le baptême pour vos enfants, vous devrez les éduquer dans la foi, leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu, leur prochain, comme le Christ nous a enseigné. Êtes-vous conscient de cela ?» Oui, nous le sommes. Et puis une autre question, et va avoir lieu, après ce dialogue initial, l'assignation du fond. J'insiste beaucoup sur ce dialogue qui se passait déjà, comme nous l'avons vu, pour des adultes. Les adultes aussi, on a ce type de dialogue. Et l'assignation du fond que le célébrant commence sur l'enfant, et à laquelle participent justement d'abord les parents, puis peut-être, si on en veut, les proches et ceux qui participent à la liturgie ce jour-là. Et puis donc, on entre dans l'Église, on entre physiquement dans l'Église. Vous voyez l'importance de ce sas, de cet rite quasi-initiatique, hein, c'est-à-dire on rentre physiquement dans l'Église, mais c'est comme si on entrait dans l'Église corps du Christ. Vous voyez, donc c'est ça que veut signifier le rite. Et donc, dans l'Église, autour de l'ambon ou auprès de l'ambon, ambon, c'est un terme liturgique qui veut dire juste qui est le terme donné au lutrin, appelons-le comme ça plus facilement, à partir duquel on lit la parole de Dieu. On l'appelle ambon parce que en grec ça veut dire monter en haut, monter des marches, hein, d'où l'idée de ambon. Eh bien là, on va faire des lectures bibliques. Vous voyez, on a une liturgie de la parole, les lectures bibliques, l'homélie, et après l'homélie, il y aura la prière commune de l'assemblée. L'assemblée est invitée à se mettre en prière pour commencer la litanie des saints. Après la litanie des saints, il y aura une prière litanique. Donc, il y a deux possibilités, ou la litanie des saints, ou prière litanique et litanie des saints. Et puis, la prière d'exorcisme et de délivrance, qui, je voudrais vous lire cette prière d'exorcisme, je le souligne une fois de plus, c'est parce qu'on a le mot exorcisme qui est un peu difficile à entendre. Je le disais déjà la dernière fois, exorcisme, ça ne veut pas dire le film L'Exorciste. Hein, il ne faut pas confondre tout ce monde un peu étrange. Mais je vous lis quelle est la prière que l'on fait à ce moment-là pour que vous compreniez la teneur de ce qu'est cet acte de prière, d'exorcisme et de délivrance. La prière dit ceci, je le cite. « Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ses enfants, comme chacun de nous, seront tentés par le mensonge de ce monde, devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement par la passion de ton Fils, sa résurrection. » Arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Donc, vous avez entendu, la prière n'est pas tellement adressée à la personne de Satan, mais la prière est là pour protéger, c'est une sorte de prière inaugurale qui demande de protéger l'enfant dans l'avenir, justement, de tout ce qui peut le provoquer du mal. Et donc, il évoque aussi la prière, l'idée que l'enfant, une fois grandi, devra résister lui-même au mal. Et donc, du coup, vous voyez, c'est plutôt une prière inaugurale en vue de la liberté par laquelle on souhaite et on demande à Dieu la liberté de cet enfant. Et puis donc, on voit l'enfant d'huile. Alors, puisqu'on m'a posé la question cet après-midi, cette huile-là, c'est une huile toute simple, de l'huile d'olive, je veux dire, qu'on a bénie, naturellement, qu'on a consacrée le mercredi de la Semaine Sainte ou le jeudi de la Semaine Sainte, ça dépend à la messe chrismale pour nous entendre, que l'on fait dans les cathédrales au cours de la Semaine Sainte, eh bien, cette huile, à nouveau, a la signification de protection, hein, de protection de la personne. C'est la même huile qu'on emploie pour les catéchumènes, je vous fais remarquer. Et puis donc, on a une imposition de la main, et c'est pour cela que je l'ai mis entre crochets, le rite de l'Effeta, ouvre-toi, le signe d'ouvrir l'enfant à la vie de Dieu, à la liberté de Dieu, avant de passer au baptême. Alors, vous voyez, je reviens à l'espace, on était à Lambeau. Le rituel propose et demande naturellement d'aller vers le baptistère. Donc, il faudrait, dans la mise en œuvre rituelle, que le lieu du baptistère soit autre, ou soit un peu plus loin que celui de Lambon. Et je reviendrai sur cette idée de processionner tout à l'intérieur de l'Église, depuis l'extérieur de l'Église et puis à l'intérieur de l'Église. Mais on devrait processionner vers le baptistère et au baptistère célébrer donc le sacrement. Et là donc, on va bénir l'eau du baptême. Il va avoir lieu la renonciation à Satan et la profession de foi, naturellement qui est adressée aux parents. Et puis, on a le baptême qui se fait habituellement par infusion d'eau, c'est en versant de l'eau sur la tête de l'enfant. Mais rien n'empêche, je vous fais remarquer, c'est nous, les latins catholiques romains, qui ne savons pas faire ça. Mais si vous regardez, si vous avez jamais participé à un baptême d'un orthodoxe, d'un enfant orthodoxe, les prêtres n'hésitent pas à immerger l'enfant dans l'eau, comme c'était le bas. Qu'est-ce que c'est le baptême? C'est un bain. Comme si, voilà, il n'y a rien de mieux que l'eau pour un enfant, de nager dans l'eau. Mais disons, nous sommes plutôt habitués à infuser l'eau sur la tête de l'enfant. Et puis, on oint l'enfant avec le Saint-Crème. Je reviendrai sur cette onction. Donc, le Saint-Crème, c'est bien le Saint-Crème qu'on emploie, je souligne, le Saint-Crème qu'on emploie pour la confirmation et pour les ordinations des prêtres et des évêques. Mais dans le rituel du baptême des petits-enfants, tout en employant le Saint-Crème, on ne donne pas là la confirmation. Je reviendrai sur cette question qui est un peu compliquée, qui nous fait faire des acrobaties du point de vue théologique et même rituel dans notre propre Église catholique romaine. Et après l'onction du Saint-Crème, on pose sur l'enfant un vêtement blanc et on remet le cierge allumé. C'est le père généralement qui va chercher, ou la mère, qui va chercher la lumière au cierge pascal et qui le tient pour signifier la lumière reçue de la grâce. Et c'est à ce moment-là qu'on quitte le baptistère et on propose de processionner vers l'autel, ou à l'autel. On va réciter la prière du Seigneur, c'est le Notre Père, le Notre Père, et où on va avoir une bénédiction finale. Cette bénédiction finale est destinée à proprement parler aux parents de l'enfant. Donc, elle est pour les parents de l'enfant. Et puis, ad libitum, c'est-à-dire on peut le faire, on ne peut pas le faire, on peut chanter le Magnificat en action de grâce. Je reviens très rapidement, mais avec beaucoup de gravité, c'est assez important, pour vous montrer ceci, qui est une sorte de difficulté. On voit l'enfant avec le Saint-Crème, mais, et pourtant, ce n'est pas la confirmation. Qu'est-ce qui fait la différence? c'est tout simplement la parole qui accompagne l'onction que je vais vous lire pour que vous compreniez là où on dit, je cherche aussi le rituel de la confirmation pour que vous compreniez mieux, voilà. La parole qui accompagne l'onction du Saint-Crème sur l'enfant dit ceci: Paul, tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit-Saint, désormais tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ, tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète, de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Vous voyez bien que rien n'est dit, si je peux dire, de l'Esprit Saint. C'est un débat, on te donne l'Esprit. Parce que si je prends la formule de la confirmation, la parole qui accompagne le geste d'onction de la confirmation, on y reviendra, la parole est celle-ci: Paul ou Pierre, soit marqué de l'Esprit-Saint, le don de Dieu. Là, de manière explicite, on nomme l'Esprit et le don de l'Esprit. Alors, quelle est la différence entre les deux moments? C'est que, je pourrais la définir comme ça, la parole qui accompagne l'onction de la chrismation du Saint-Crème pour le baptême d'un petit enfant est plutôt inaugurale. Elle est plutôt de l'ordre d'une promesse de ce qui doit encore advenir, hein? Elle dit bien cette parole: Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Donc du coup, c'est une sorte de souhait inaugural vers quelque chose. Et justement, c'est de cela que je voudrais vous parler maintenant. C'est que tout le rituel veut en vérité, de manière très rituelle, je veux dire, pas à travers le rite, montrer que même pour un petit enfant, il y a un processus d'initiation qui advient. La première perception de ce processus, de cette démarche, est justement la marche, la procession. On commence à la porte de l'église, on va à l'ambon, on revient, on va au baptistère, on revient à l'autel. Et vous voyez que de la porte de l'église, on passe par la parole et on termine à l'autel. Et si je regarde les lieux mêmes, les lieux marquent les différents sacrements de l'initiation. Le baptistère, naturellement, souligne l'idée de l'eau du baptême, mais aussi de la confirmation qui doit advenir, et l'autel, l'Eucharistie. Donc là, nous avons une sorte, et cela évoque, les lieux, les différents lieux de l'Église, évoquent les trois sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie. Naturellement, le baptême est reçu de plein droit, et il est évident. On immerge ou on infuse l'eau du baptême sur l'enfant. Par contre, vous voyez bien que le Saint-Crème est donné comme promesse de la confirmation future, et le Notre Père que l'on récite près de l'autel évoque l'Eucharistie, et donc la première communion que l'enfant devra probablement peut-être un jour recevoir dans son initiation. Donc, première perception, c'est celle justement de la ritualité et des lieux d'église qui permettent de souligner le processus d'initiation qui est déjà là, qui est déjà donné, mais qui doit se développer dans la vie. Donc, procession qui, entre autres, procession ou déplacement du corps à l'intérieur de l'église, qui signifie, du point de vue, je dirais, quasi anthropologique ou humain, le fait que cet enfant devra marcher dans la vie du Christ. Et donc, il y a une marche à faire, et il faut grandir dans la vie chrétienne et que cela demande de progresser dans cette vie. Donc, effectivement, je reviens à l'idée du cinquième donné là, n'est rien d'autre qu'un geste inaugural qui devra être confirmé, qui devra s'achever le jour de la confirmation. Et c'est pareil pour la communion, pour la première communion. Et donc, justement, cela nous permet de continuer sur le sacrement de la confirmation. Je reprends le plan. Voilà la célébration de la confirmation. Nous retrouvons à nouveau le rituel, les notes doctrinales et pastorales que l'on retrouve dans tous les rituels. Et nous avons donc le premier point important de ces notes doctrinales et pastorales, c'est celle qui souligne le rapport de la confirmation avec les sacrements de l'initiation. C'est même, on pourrait dire, une nouveauté de ce rituel, le fait de le mettre en relation avec, d'une part, le sacrement du baptême et, d'autre part, avec l'Eucharistie. Aspect qui n'était pas retenu jusque-là, jusqu'au Concile Vatican II, dans la mesure où, quelque part, le rituel de la confirmation, la célébration de la confirmation, c'était un peu comme atomisé, c'était un peu comme isolé du reste des sacrements de l'initiation. Et là, on souligne que la confirmation est bien l'achèvement du baptême et elle conduit à la première communion. On va souligner l'importance du sujet du sacrement en disant que, effectivement, l'âge des confirmants dans l'usage de l'Église latine est l'âge qui à partir de l'âge de 7 ans, hein, donc c'est à partir de 7 ans que l'on peut recevoir la confirmation et au-delà naturellement. On souligne une fois de plus la dimension ecclésiale du sacrement. Là où on dit, je peux vous lire l'un des numéros qui souligne cela, c'est le numéro 23 qui est extrêmement important. Là, il est dit ceci, je vous le lis, « Il faudra veiller à ce que la célébration de la confirmation ait le caractère festif et solennel correspondant à sa signification pour l'Église locale. » On souligne une fois de plus l'aspect ecclésial. Il est donc important que les candidats soient rassemblés pour une célébration communautaire, festive, solennelle. Le peuple de Dieu tout entier, représenté par les familles et les amis des confirmants, ainsi que par des membres de la communauté locale, sera invité à participer activement à cette célébration. Et il s'efforcera de manifester sa foi par les fruits que le Saint-Esprit a produits en lui. Donc, vous avez entendu l'importance extrême de l'église locale, de la cathédrale ou de la paroisse, là où se célèbrent et donc des fidèles qui y participent. Au sujet du ministre du sacrement, naturellement, on souligne que l'évêque est le ministre ordinaire de la confirmation, mais que l'évêque peut déléguer l'un ou l'autre prêtre s'il ne peut pas être présent. Mais on souligne l'importance de l'évêque. Nous savons combien la question historique dans la tradition latine de la présence de l'évêque pour la confirmation a marqué ce sacrement. Et puis, le rite essentiel du sacrement, là où on dit, je le cite aussi, dans l'Église latine, on observera désormais ce qui suit. Le sacrement de confirmation est conféré par l'onction du Saint-Crème sur le front, faite en imposant la main et par ces paroles, donc je vous l'ai déjà cité, soit marqué de l'Esprit-Saint le don de Dieu. Soit marqué de l'Esprit-Saint le don de Dieu. Donc, Saint-Crème, imposition de la main, et la parole qui l'accompagne. Je vous fais remarquer, pour votre curiosité, que quand on a rédigé ce sacrement, on s'est inspiré pour la formule, pour la parole qui accompagne le geste de la chrismation, donc la parole est soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu, on s'inspirait de la tradition byzantine, donc de la tradition orthodoxe. Donc la même formule que nous avons dans le rituel de la confirmation est la formule qui est employée par les églises orthodoxes. Il y en a, je pense, une très grande importance œcuménique. Nous employons une formule employée par des églises orthodoxes. Voilà, donc c'était voulu, donc c'est de manière et voulu qu'on a cherché cette formule. Et donc, je vais pareillement vous montrer la célébration qui est là détaillée, mais que je vais vous montrer par le tableau qui était distribué. Donc, une fois de plus, je souligne le fait que la confirmation est prévue, ou on demande qu'elle soit célébrée au cours d'une Eucharistie. On a bien dit une Eucharistie festive, solennelle. Généralement, c'est dans la cathédrale que l'on célèbre la confirmation. Et là, on a donc, vous voyez, vous la reconnaissez, c'est la structure de l'Eucharistie, de la célébration de la messe. Un rite d'entrée, la liturgie de la parole, la liturgie du sacrement. À nouveau, quand j'appelle la liturgie du sacrement, c'est la liturgie, à proprement parler, de la confirmation. Et puis, la liturgie eucharistique, avec la préparation des dons, les rites que nous connaissons jusqu'à la communion et les rites de conclusion. Donc, je vais vous faire découvrir quelques aspects qui peut-être ne seraient pas repérables d'emblée en lisant ce tableau. Tout d'abord, bon, le contexte eucharistique. Et puis, après l'homélie, donc le sacrement de la confirmation. Et vous voyez, à nouveau, le rite commence par l'appel des confirmants. Donc, ce sont déjà des adultes, disons, des garçons, des filles en âge de raison et donc capables de répondre eux-mêmes. Et donc, on les appelle de leur nom et on commence par la profession de foi, c'est-à-dire par la récitation du credo. J'essaie de retrouver le rituel pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Alors, je tourne les pages, voilà. Donc, c'est sous forme de dialogue, la profession de foi. Vous voyez, l'évêque dit « Vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmé ». Il ajoute d'autres choses et puis il dit « Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre ». Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair? Oui, nous croyons. Vous l'avez entendu, cette même formule, nous la prononçons la nuit pascale, n'est-ce pas? Quand nous renouvelons les promesses de foi baptismale. Eh bien, c'est assez intéressant, je voudrais vous faire remarquer cela. On commence par cette profession de foi. Hein? Et concrètement, on renvoie, donc on commence par où on a laissé les sacrements. Si je dois être confirmé, c'est que j'ai été baptisé. Et donc, cette profession de foi rappelle d'où le confirmant vient. Il vient de recevoir, quand il était probablement bébé et enfant, le baptême. Et donc, il renouvelle la profession de foi qu'on a déjà prononcée pour lui, que les parents ont déjà prononcée pour lui à un moment donné. Et donc, vous voyez bien que le rituel de la confirmation, paradoxalement, commence par quoi? Par le baptême, c'est-à-dire par la mémoire du baptême. Nouveau, nous trouvons l'ordre du baptême. Puis on a l'imposition des mains, la présentation de chaque confirmant et l'onction chrismale, telle que je vous l'ai déjà décrite plusieurs fois avec les paroles « Sois marqué de l'Esprit-Saint, le don de Dieu », et puis une salutation de paix avec le confirmant et puis la prière universelle. Et donc, vous voyez qu'on est là, on a là plutôt, ce n'est pas qu'on aurait, ce n'est pas un conditionnel, c'est tout à fait ça. On fait mémoire du baptême, on est confirmé et, ce n'est pas terminé, on communie à l'Eucharistie au cours de laquelle est donnée la confirmation. Et le rituel insiste sur une chose, peut-être dont on n'est pas trop conscient. Il dit que même si un enfant, un garçon, une fille avait reçu avant la confirmation la première communion, la communion à laquelle il participe le jour de sa confirmation doit être signifiée de manière particulière, c'est-à-dire doit rappeler que par cette communion, le jour de la confirmation, est achevé son cheminement d'initiation. Cette communion-là achève son cheminement de confirmation, d'initiation. Donc, nous retrouvons là, de nouveau, de manière idéale, l'ordre de baptême par la profession de foi que l'on renouvelle, confirmation et Eucharistie dans la communion que l'on reçoit, à laquelle on participe le jour de la messe de la confirmation. Oui, je vous ai mis à côté tout simplement pour vous montrer l'ordre de la confirmation à l'intérieur du rituel de l'initiation chrétienne des adultes. C'est à peu près, c'est exactement le même ordre à part la profession de foi, parce que la profession de foi est plutôt faite là, dans l'initiation chrétienne des adultes, avant l'imposition des mains. Alors que là, c'est juste un rappel, une mémoire, une anamnèse du baptême à ce moment-là. Et donc, pour conclure, vous voyez bien que tous ces trois rituels adultes, petits-enfants, confirmation, qui s'appelle initiation chrétienne des adultes. Donc, tout rituel est nommé l'initiation chrétienne, la célébration de la confirmation ou la célébration du baptême des petits-enfants, souligne l'importance de ce processus d'initiation qui se fait dans le temps, dans la vie. Parfois, on la commence très tôt en étant bébé, mais on l'achève peut-être en adulte ou en adolescent, à un moment donné de la vie, donc s'étale dans la vie. Mais elle n'est rien d'autre que la mise en œuvre sacramentelle de quelque chose qui doit être signifié dans la vie, justement. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a reçu le baptême à un moment donné que c'est fini. Non, la vie chrétienne est appelée à développer, à porter dans sa plénitude le don reçu au moment du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. J'arrête le partage des textes et je vous donne la parole avant la pause. Y aurait-il l'une ou l'autre chose que vous voudriez, dont vous voudriez avoir plutôt un éclaircissement? Je crois que Martine élève le doigt.
Oui. Bon, je fais partie de l'équipe baptême des petits-enfants.
Oui.
Une des parents, très, très pratiquants, nous ont dit un jour, mais est-ce qu'il est possible de changer les paroles pour le credo du baptême? Bon, ils ont choisi de faire baptiser pendant une messe. Hein.
Oui, mais c'est déjà pas mal.
Oui, tout à fait. C'était vraiment dans leur
désir, oui.
Le sens qu'ils donnaient à toute leur vie chrétienne, c'était tout à fait. Et les paroles telles qu'elles sont données pour le baptême, je ne renonce à Satan, etc. Tu vois que ce n'était pas très...
Oui.
Enfin, ça ne le motivait pas beaucoup. Et avait été évoquée la prière, justement, que vous venez... Enfin, la renonciation que vous venez de donner pour la confession, pour la confirmation.
Pour la confirmation, oui.
C'est très simple, le renoncement. C'est
oui,
très...
oui.
On renonce oui. au mal, quoi.
Oui. Je comprends.
Or, bon, ça a été refusé que ce soit utilisé pour un baptême.
Oui, oui.
C'est très strict concernant ces.
Mais généralement, prières. Si vous voulez, effectivement, le comment on peut dire ça, la renonciation à Satan, effectivement, ou j'étais en train de d'ouvrir le rituel pour la lire ensemble. Hein. Le rituel donne, si vous voulez, deux formules, si je vois bien, voilà. Et donc, effectivement, l'une est très forte, je veux la lire. Hein. Renoncez-vous à Satan, je renonce. Renoncez-vous à vos œuvres, je renonce. Renoncez-vous à toutes ces déductions, je renonce. Hein. Ou bien, c'est l'autre formule, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché, je le rejette. Pour échapper à la prise du péché, rejetez-vous celui qui conduit le mal, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché, je le rejette.
Il y a Satan dans les deux.
Voilà, il y a Satan les deux, bien sûr, mais comment dire cela ? Effectivement, nous ne sommes plus habitués à cette personnification de Satan ou du démon, hein. Donc ça peut choquer parfois les oreilles des gens. Vous voyez qu'on a déjà, dans la deuxième formule que je viens de lire, on a essayé déjà d'adapter cela de manière beaucoup plus large. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait, dans la catéchèse, hein, peut-être expliquer Satan fait partie du message biblique, n'est-ce pas ? Elle fait partie de la révélation telle qu'elle nous a été transmise par les Écritures. Et donc, après, la manière dont anthropologiquement nous le concevons aujourd'hui, c'est une autre histoire. Mais Satan est quelque part l'expression du mal qui, effectivement, voilà. est
Je
dans
crois
le
qu'on
monde.
Aurait, voilà. On aurait dit le mal.
Ça aurait été plus acceptable, oui, peut-être.
Oui, ça aurait été plus acceptable, je crois, dans leur... Oui.
Nous le disons tous les jours, autant que nous voulons, quand nous prions notre Père, hein, délivre-nous du mal.
Ouais.
Mais vous savez que la prière de notre Père, quand on dit délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, ça peut être le mal moral, ou, voilà, mais ça peut être aussi le mauvais, avec M
oui,
majuscule.
Oui. Hein.
Mauvais pourrait être un autre nom de Satan. Hein, voilà. Peut-être qu'on aurait pu transformer le mauvais, rejetez-vous, le mauvais qui est l'auteur du péché. Alors, du coup, on aurait pu, dans les des oreilles sensibles, aurait été. Mais la question du mal est là présente quand même.
Ah oui, de toute façon, elle est toujours présente.
Voilà. Par là, je veux dire que ce que vous dites, et c'est très intéressant, c'est que nous sommes désormais confrontés par l'adaptation de ce rituel. Aux personnes qui demandent les sacrements.
Oui, tout à fait.
Et donc, c'est la catéchèse, c'est l'accompagnement qui permet de faire rentrer dans l'intelligence de ces rituels.
Ah, c'était une question très, très honnête. Enfin, très...
Oui, puis surtout si la démarche était telle que vous la dites.
Ah oui, c'était très
déjà...
ressenti par rapport... Enfin, c'était un souhait et bon, ça a été refusé.
Parfait.
Mais ce n'étaient pas les deux formules proposées par...
Oui, oui.
Alors, d'autre part, une autre question, c'est par rapport à la première communion qui est toujours, sauf dans le cas des confirmations adultes, où ça peut être important, pour les enfants, elle est à l'âge du catéchisme, avant la confirmation.
Oui, oui.
Voilà. Donc, on reprend les... Mais, comment je veux dire quand vous en parliez tout à l'heure, ça achève, mais ils l'ont déjà fait, la communion.
Oui, tout à fait.
Et vous avez parlé
mais là, je dirais...
communion exceptionnelle, enfin, qui est à remarquer.
Là, il faut tenir en tension les deux aspects. L'un est l'aspect théologique et l'autre est l'aspect pastoral. L'aspect théologique, comment on peut dire ça ? L'aspect théologique... Vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Ah oui, voilà. L'aspect théologique dirait l'ordre et l'ordre, baptême, confirmation, eucharistie. C'est très important, n'est-ce pas? Ça, oui. Il faut le tenir. L'aspect pastoral, c'est qu'effectivement, dans certaines pratiques pastorales, on fait passer l'Eucharistie avant la confirmation. Et donc, cela, je dirais, c'est pastoral, ça fait partie des choix pastoraux, mais qui sont des quasi-accidents, qui n'ont pas une portée théologique, ça y est.
Oui.
C'est l'histoire qui a conduit à ça. À cette question a répondu Benoît XVI dans le sacrement de la charité. Je pourrais vous donner, si vous le voulez, les numéros dans lesquels il cite. Il dit exactement ça. L'ordre est celui-là, baptême, confirmation, mais la pastorale nous amène parfois à déplacer les sacrements. Il dit, même à ces cas-là, il faut que l'horizon soit toujours eucharistique.
Mm-hmm.
C'est en ce sens que même si un enfant qui vient à la confirmation, un garçon ou une fille qui vient à la confirmation, qui a déjà reçu la première communion, on ne fait pas semblant qu'il n'ait pas reçu, il a bien reçu. Mais je répète, le jour de la confirmation, la catéchèse à nouveau devra le faire comprendre et le faire rentrer dans l'intelligence du fait que ce jour-là, la communion à laquelle ils vont participer achève leur initiation.
Mm-hmm.
Vraiment, du point de vue théologique, voilà, idéal. Ça y est, hein. Donc, je crois qu'il faut tenir cela, ce que j'appelle l'horizon eucharistique. Mm-hmm. Pourquoi? Vous comprenez bien? Parce que c'est l'Eucharistie qui entretient la vie chrétienne, ce n'est pas la confirmation. L'Eucharistie est réitérée toute la vie d'un chrétien. La confirmation est donnée une fois dans la vie, le baptême aussi. Donc, vous voyez, insister. La dernière fois, peut-être ceux qui étaient la dernière fois à 14h savent que je donnais cette anecdote. J'étais à une session dans un diocèse et je parlais de ces questions dont nous sommes en train de parler. Et à la fin de la session, l'évêque du lieu dit « Je dois confesser une chose publiquement. J'ai toujours prêché quand je célébrais la confirmation. J'ai toujours prêché sur l'Esprit Saint, mais dorénavant, j'ai compris que je dois prêcher sur l'Eucharistie le jour de la confirmation. » C'est-à-dire, et je crois qu'il a raison, c'est-à-dire, le but, c'est pas tellement, comment dire, c'est pas l'Esprit Saint. C'est la vie en tant que chrétien que l'Esprit Saint me donne de vivre, vous voyez.
Mm-hmm.
Et l'Eucharistie, je le dis une fois de plus, est plutôt le sacrement qui entretient cet avis de l'Esprit.
Mm-hmm.
Vous voyez. Donc, la difficulté, toujours essayer de le faire entrer dans la catéchèse, voilà.
Oui, parce que dans la catéchèse, enfin, je sais pas, moi, je l'ai toujours vu mis après.
Oui, oui, bien
d'abord
sûr.
La première communion, vers 10 ans ou quelque chose comme ça,
oui.
Souvent même dans les aumôneries pour la confirmation. Oui.
Est-ce qu'il y aurait d'autres qui voudraient poser des questions?
Merci.
Merci à vous. D'autres voudraient poser des questions? Ça marche? Donc, j'accueille votre silence comme un acquiescement de non-question.
S'il vous plaît.
Ah oui, donc il y a quelqu'un.
Oui.
Qui est-ce?
Béatrice. Je vois...
Béatrice, merci Béatrice, oui.
Je ne sais pas si je vais être claire.
On parle... Vous le saurez sûrement, oui.
Non, ce n'est pas sûr. On parle de recevoir l'Esprit Saint dans le baptême, dans la confirmation. Mais ne l'attend... Enfin, tout être humain ne l'a-t-il pas déjà de fait? Enfin, est-ce que c'est... sinon, ça fait un peu magique.
Oui, oui, en vérité...
Comment vous présentez
ça? Justement, le sacrement, nous venons de le dire à plusieurs fois, hein, à plusieurs reprises, le sacrement n'est jamais mis à part. Et j'ai pris toutes les précautions pour vous montrer qu'on a essayé d'expliquer le pourquoi du baptême d'un enfant, mis à part le baptême d'un enfant, mais même le baptême d'un enfant dit qu'il est question de relation, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Et donc, dit la liberté de la personne, dit l'acquiescement de la personne, hein, ça c'est évident pour un adulte, pour un enfant, il y a une médiation des parents. Pour des confirmants, des adolescents, cela est clair. Il y a aussi une liberté, en principe. Hein, une liberté qui grandit, tout ce qui est la liberté. Mais justement, le sacrement vient dire « j'adhère à ce don
oui. »
peut-être qui me précède. Le don nous précède toujours. La grâce, vous avez raison, nous précède toujours. Mm. Mais il y a un jour où je dois adhérer à cette grâce. Je dois dire « oui, je veux bien ».
D'accord.
Et le sacrement est là pour dire « oui, je veux bien ».
Ok.
Ça y est ?
Oui, merci. Merci beaucoup.
Oui, s'il vous plaît.
Oui.
Oui, je voudrais simplement intervenir pour dire que je ne vous apprendrai rien. Je pense que ce beau sacrement que vous nous avez détaillé, notamment du baptême des petits-enfants, est un peu saccagé dans nos paroisses. Mm. C'est bien dommage, je trouve.
Mm.
Parce que il est souvent délivré dans des familles qui n'ont peut-être pas une foi tout à fait aussi solide qu'on pourrait le souhaiter.
Mmh.
Ce serait peut-être le moment là, de remettre l'Église au milieu du village.
Oui. Alors, vous savez, cette question a été débattue, si je peux dire, ou a été prise en compte, hein, par exemple par les évêques de France, hein, de la conférence épiscopale française, notamment par la production d'un document, vous pouvez le chercher, hein, le texte national pour l'orientation de la catéchèse, TNOC, TNOC, on l'appelle, on l'abrège. Et dans ce document, il est destiné pour la catéchèse, mais il est question de ce que vous dites. Le document dit, prend acte, objectivement, du fait que désormais, les demandes de sacramentalisation, c'est-à-dire les demandes d'un sacrement pour les enfants, le baptême, la première communion, à ce moment, c'est plutôt le baptême, doivent devenir désormais des lieux de catéchisation, de reprise de la catéchèse pour les parents. Vous voyez ? Désormais, il faut tenir compte que la préparation du baptême d'un petit enfant devient la préparation à la vie chrétienne ou la reprise d'une conscience de l'importance des chrétiens pour les parents, vous voyez.
Et cette prise de conscience se fait bien pendant la veillée pascale quand on a la chance d'assister
participer.
à des catéchumènes. Hein. Je vous le dis aussi en tant qu'accompagnant, justement.
Oui.
Catéchumène, c'est vraiment là pour l'ensemble des paroissiens, une occasion de réviser.
Et pour les petits-enfants, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on devrait vraiment mettre en œuvre la liturgie que le rituel demande. Si on la mettait telle que j'essaie de vous la décrire, que le rituel montre, notamment par la participation de la communauté ecclésiale, alors qu'on en parlait avec le groupe de l'après-midi la fois dernière, il y a assez souvent dans nos communautés un déficit ecclésial.
Voilà.
C'est-à-dire que les gens ne sont pas présents au moment même où il faudrait qu'elles soient présentes pour l'accueil de la famille qui amène son enfant, pour l'entourer là. Voilà.
Et je crois que la communauté, à ce moment-là, serait présente. Parce que souvent, les baptêmes se font, j'allais dire, un peu en cachette, hein,
oui.
Hein, à la fin de la cérémonie. Et le côté très ecclésial que vous avez souligné…
Et en peine beaucoup. Mais vous avez raison de le dire.
Si je peux me permettre, juste une petite remarque à ce sujet.
Oui.
Souvent, ce sont les paroissiens qui ne veulent pas parce que ça rallonge la messe.
Oui. Vous avez tout à fait raison.
Bon.
Vous avez tout à fait raison. On a peur, on pense à soi-même, si je peux dire. Il y a un déficit ecclésial dans nos...
La pratique religieuse n'est pas faite pour gagner du temps.
Oui, bien sûr.
Et en perdre, naturellement.
Mais vous voyez la beauté, j'espère de vous transmettre la beauté de ce rituel qui souligne le fait que l'initiation, le baptême, la confirmation, la première communion sont des moments ecclésiaux par excellence, vous voyez. Et que si cela n'est pas vécu, on ne transmet pas la foi. Le fait d'être présent, c'est tout petit, si vous voulez, mais c'est une manière de dire « je te transmets la foi que j'ai reçue ».
Oui. bien sûr, aussi précieux que beaucoup d'obélis qui sont souvent un peu dépourvus d'intérêt. Je le dis comme je le pense.
Oui, oui, mais vous faites bien. Merci. Écoutez, je vous propose, on est 21h25, nous n'avons pas terminé la soirée, je dois commencer l'Eucharistie, je vous fais remarquer. Je vous donne cette fois-ci 5 minutes de temps. Donc, nous recommençons à 21h30. 21h30 pour boire un verre d'eau. À 21h30, je recommence. Merci. Voilà, je recommence. Je sonne une cloche toute spirituelle. Est-ce que vous m'entendez?
Oui,
c'est parfait. C'est parfait. Alors, on continue le cours et on commence une première volée sur l'Eucharistie. Et donc, nous faisons comme nous l'avons fait pour le baptême et pour les deux autres les sacrements du baptême et de la confirmation. Nous allons d'abord regarder l'évolution historique, le développement de l'Eucharistie. Comme je vous disais la dernière fois, je ne sais plus à qui je le disais, mais si je l'ai déjà dit, je vous le répète, sous forme de blague, je dis toujours, si Jésus devait venir dans une de nos paroisses pour la messe, peut-être qu'il ne reconnaîtrait pas l'Eucharistie à laquelle il avait pensé et qu'il avait posé à la scène, à la dernière scène. Et donc, nous avons déjà appris par les premiers cours que nous avons partagés ensemble que l'Eucharistie est le sommet et l'achèvement de l'initiation. Déjà, cette définition est importante. Elle est réitérée comme sacrement, donc elle est donnée, elle est célébrée tout le temps que les chrétiens le veulent. J'aime bien l'appeler aussi par un nom qui avait mauvaise presse autrefois. C'est vraiment, on peut définir l'Eucharistie comme un viatique, c'est-à-dire au sens vrai du terme. C'est le sacrement de la voix, le sacrement pour la voix du chrétien, qui est en train de parcourir la vie terrestre. Et donc, c'est le sacrement pour qu'il puisse vivre. Et dernière chose, par rapport à ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, l'Eucharistie est le sacrement qui remémore en nous la vie baptismale, qui la renouvelle en nous. Hein, voilà. Et donc, nous allons parler de l'Eucharistie à partir donc de son développement. Je vais partager l'écran. Vous avez reçu deux documents pour cette partie de l'Eucharistie. L'un, c'est le plan. Et l'autre, c'était un dossier de texte, n'est-ce pas? Donc, que nous allons travailler ensemble. Alors, le plan, juste, vous est donné juste par, comme canevas de ce qu'on va développer en vérité dans les dossiers de texte. Donc, nous commencerons à parler, nous parlerons d'abord du passage du repas juif à la liturgie chrétienne, comment la scène, selon une expression de Benoît XVI, comment la scène de Jésus devient l'Eucharistie de l'Église. Et donc, nous le regardons à partir du Nouveau Testament, et puis à partir des premiers écrits chrétiens, dont la Didaché, que nous avons déjà rencontrée, de Justin, des constitutions apostoliques. Et puis nous allons, à partir d'un tableau, rapidement, nous regarderons comment ça s'est fixé, l'Eucharistie, tant en Occident qu'en Orient, et nous regarderons l'ordomisse, l'ordre de la messe, le déroulement de la messe, selon le Concile Vatican II, comment on est arrivé à la production du missel, et puis quelles sont les différentes parties de la célébration. Il y aura un deuxième volet théologique qui, je vous propose, donc je l'ai déjà dit au groupe de l'après-midi, nous regarderons l'aspect, la dimension théologique de l'Eucharistie, que nous avons déjà commencé à regarder, mais nous allons l'approfondir à partir d'un document œcuménique. C'est un accord entre catholiques et protestants écrit par le groupe dit des Dombes. Et donc, il vous sera distribué la prochaine fois. Je vous demanderai de faire un petit travail à la maison, tout simplement de le lire. Voilà. Si d'ici, à partir de demain, disons, jusqu'à mardi prochain, vous lisez ce texte, après nous en parlerons la prochaine fois. Hein. Et donc, ça nous permettra d'avoir déjà baigné sans que vous soyez surpris par le texte. Et donc, nous allons commencer par parler de l'Eucharistie à partir des traditions néo-testamentaires, et je vais prendre sans tarder Donc, vous voyez que on retrouve les mêmes documents. Et vous avez sous les yeux un tableau comparatif ou synoptique, si vous voulez. C'est une synopse, c'est-à-dire que c'est un tableau qui est mis en colonne et qui essaye de repérer les expressions identiques suivant les différentes auteurs. Et donc, à partir de ce tableau, je voudrais vous rendre attentif à certains aspects qu'on peut-être vous donner des clés pour comprendre ces textes. Tout d'abord, vous voyez à partir de gauche d'un texte de la lettre de la première lettre aux Corinthiens de Paul et un texte de Luc. Puis vous avez un texte de Marc, un texte de Matthieu. Pourquoi je les ai mis de cette manière-là? Parce que les spécialistes des Écritures le savent, hein, et même les historiens de la liturgie, le plus ancien témoignage de l'Eucharistie ne vient pas de Marc ni de Matthieu, mais vient de Paul. Je vous rappelle que Paul écrit la première lettre aux Corinthiens autour des années 54-55. Et donc ce texte de la première lettre aux Corinthiens est le plus proche du point de vue chronologique de ce que Jésus a fait lors de la dernière scène. Et Paul est témoin de ce que Jésus a fait. Je vais chercher juste le passage pour vous l'introduire, parce que je n'ai pas mis l'introduction, qui est quand même importante et que je cite toujours de mémoire, mais je n'ai pas… voilà, je vous le citerai tout à l'heure. Et Luc, à nouveau, je vous rappelle, Luc est disciple de Paul. On sait que Luc est disciple de Paul, donc… Et il rapporte probablement la même tradition d'une célébration, de la célébration de l'Eucharistie à un moment donné. Voilà. Alors que Marc et Matthieu sont témoins d'une autre pratique eucharistique, déjà développée par rapport à Paul et à Luc. Par rapport à Paul et à Luc. Et donc nous allons commencer à regarder ces textes. On y reviendra sur ces deux traditions. Donc, Paul, cette partie que je vous ai mis là, commence par, vous savez, c'est la fameuse partie dans laquelle Paul reprend de manière assez ferme la communauté de Corinthe. Et il dit ceci, « Je vous félicite… attendez, non, c'est plutôt là. Puisque j'ai commencé à vous faire des critiques, je ne vous félicite pas pour vos réunions. Elles vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, quand votre Église se réunit, il paraît qu'il subsiste parmi vous des divisions. Et je crois que c'est assez vrai, car il faut bien qu'il y ait parmi vous des groupes qui s'opposent. Donc, quand vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, alors que l'un reste affamé, tandis que l'autre a trop bu. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Méprisez-vous l'Église de Dieu au point d'humilier ceux qui n'ont rien? Que puis-je vous dire? Vous féliciter? Non, pour cela, je ne vous félicite pas. Je vous ai pourtant transmis, moi, ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. Et le texte continue, la nuit même où il était livré le Seigneur Jésus. Mais nous sommes dans un contexte de division. Nous sommes dans la division de la communauté de Corinthe. Et le problème, c'est que comme s'il y avait à Corinthe, quand on célèbre le repas du Seigneur, deux groupes. L'un qui apparemment est plus riche, a plus de possibilités, elle mange, elle boit. L'autre qui n'a pas la possibilité, les mêmes possibilités que ce premier groupe. Et donc, Paul met comme discernement de cette division, hein, pour reprendre la communauté, dit-il, la tradition qu'il a reçue lui-même. La tradition, donc ça veut dire que ce qu'il relate, il a reçu de quelqu'un d'autre déjà avant lui. Et voilà ce qu'il dit. La nuit même lui était livrée, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, vous faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, vous voyez, nous sommes dans un contexte de passion, de trahison. La nuit même où il était livré, Jésus va être livré au chef des Juifs qui vont lui faire le procès, le juger, l'amener chez Hérode, puis chez Pilate. Et donc, c'est important, cette mise en contexte qui fait référence à la passion du Christ, à la mort du Christ. Et je vous dirai pourquoi. Et là, Paul dit, il y a d'abord un geste autour du pain, et puis il y a un geste autour de la coupe. Mais vous avez remarqué, entre le pain et la coupe, il y a le repas. Après le repas, il fit de même avec la coupe. Donc, tenez déjà compte de cela, pain, repas, coupe. Et pour le pain, Paul dit, il y a trois gestes de Jésus. Rendre le pain, rendre grâce, c'est typiquement juif, le rompre, naturellement pour le donner. Hein. Et il accompagne ce geste par une parole. C'est aussi typiquement juif, ça. C'est que tout geste rituel est accompagné d'une parole. Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et puis, il fit de même. Qu'est-ce que ça veut dire, il fit de même? Ça veut dire qu'il prend la coupe, il rend grâce sur la coupe et il la partage, la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, vous faites cela en mémoire de moi. Et là, s'arrête le témoignage, les paroles du Christ, ce que Paul dit être les paroles du Christ. Et là, c'est Paul qui parle au verset 26, là où il dit « Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Déjà, Paul, on pourrait presque dire, mais c'est pas presque, mais on peut dire qu'il fait là, c'est une des premières théologies de l'Eucharistie. Nous l'avons là, dans ce texte. Pourquoi il interprète, il donne une signification au geste de Jésus. Et il dit, s'il fallait poser par question et réponse, qu'est-ce que c'est l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est partager le pain, boire à la coupe pour proclamer la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Et je voudrais vous faire remarquer que, même en français, mais même dans le grec qu'il y a derrière le français, le jusqu'à ce qu'il vienne donne lieu à deux interprétations. Jusqu'à ce qu'il vienne, c'est que je mange ce pain, je bois cette coupe, jusqu'à son retour, jusqu'à son deuxième retour. Hein? Donc, à la parousie, il y a une dimension eschatologique. Mais le jusqu'à ce qu'il vienne pourrait aussi dire je célèbre l'Eucharistie afin qu'il vienne. Afin qu'il vienne. C'est plutôt de l'ordre d'un désir. Afin qu'il soit présent au milieu des siens. Jusqu'à ce qu'il vienne. Les deux interprétations, je vous dis déjà, il faut les tenir ensemble. Il faut les tenir ouvertes. Nous verrons par des expressions que nous retrouvons auprès chez les chrétiens. Alors, vous voyez bien que nous sommes là dans un geste que j'appellerais, qu'on peut appeler prophétique de la part de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire un geste prophétique? C'est qu'il annonce par des gestes symboliques ce qu'il vivra. Et ce qu'il vivra, c'est sa passion. Il ne pourra pas sur la croix dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et donc, il va l'annoncer lors de la scène à ses disciples pour que, quand il sera sur la croix et sera ressuscité, on puisse se rappeler de ce symbole. Et ce symbole deviendra le lieu de rassemblement des disciples du Seigneur. Si nous prenons la colonne de Luc, je vous le répète, disciple de Paul, assez probablement proche de la tradition eucharistique dont Paul est porteur, regardez bien, Luc dit, Jésus se mit à table, les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Nous sommes encore dans un contexte de passion. Donc, je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. Là, c'est une dimension eschatologique. Et là, regardez, il prit une coupe. Il ne prend pas le pain. Il commence par une coupe. C'est une première coupe. Il rend grâce, nous avons vu que c'est un geste juif, et il accompagne cette prise de coupe et de l'action de grâce par « prenez, partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit de pain, et donc là nous trouvons l'ordre de Paul. Après avoir rendu grâce, il le rompit, il ordonna. Pratiquement, les textes sont identiques. Vous pouvez parcourir les colonnes, hein, sont identiques. On retrouve l'idée de, à la fin du repas, après le repas, oui, donc ça veut dire qu'il y a eu entre-temps, entre le pain et la coupe, la deuxième coupe, le repas festif, n'est-ce pas? Et donc, cette coupe termine le repas festif, et c'est là qu'on a la parole de cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Puis j'ai mis entre crochets, j'ai reporté entre crochets la phrase initiale, parce qu'elle est là pour vous montrer qu'il y a bien là une dimension eschatologique voulue par Luc, hein, mais aussi par les autres évangélistes. Donc, ce qui fait que, retenez cela, Paul et Luc sont témoins d'une célébration de la scène, je n'appelle pas encore une Eucharistie, qui met en œuvre une ritualité juive. Faite d'une ritualité qui a cet ordre, d'abord une action de grâce sur la première coupe, la fraction du pain, le partage du pain, le repas festif et partage de la deuxième coupe. Si on regarde Marc et Matthieu, on voit que pour eux, le repas qui était entre le pain et la coupe devient global, c'est pendant le repas, Jésus prit du pain avec les paroles que nous connaissons déjà et prit la coupe avec les paroles que nous connaissons déjà avec la dimension eschatologique qu'on avait déjà trouvée chez Luc, ainsi de suite. Les historiens de la liturgie et les exégètes soulignent que nous avons là deux traditions. C'est la tradition paulinienne qui est plus ancienne et qui connaît encore un ordre de la scène et de la célébration de l'Eucharistie chez les chrétiens très proche du judaïsme, très proche des pratiques juives. Alors que Marc et Matthieu ont déjà stylisé la célébration de l'Eucharistie, réduisant, donc en escamotant, en faisant sortir le repas qui intercalait le pain et la coupe, dans un repas global, si je peux dire, et qui tient compte de l'ordre pain et coupe sans interruption d'un repas au milieu. Pour montrer l'arrière-fond juif de ce que je viens de vous dire, je vous ai mis dans un autre tableau, effectivement, ce qui est dit dans les indications de ce que nous ont laissé les textes juifs sur la célébration, sur la mise en œuvre du repas festif juif. Cela ne vient pas naturellement, ça ne vient pas de l'écriture, hein. Ce sont des textes juifs, hein, donc, qu'on a commencé à écrire autour du 4e siècle. Et là, vous voyez, pour le repas juif, il est dit ceci, il y a l'entrée, il y a la bénédiction sur le vin, le pain, voilà. Après ça, c'est très lavé les mains, on prend place à table, au repas de fête, on mange allongé sur des divans, appuyé sur le bras gauche, et l'on boit du vin. Je vous fais remarquer que cette posture, on la retrouve parfois dans des icônes qui représentent la scène de Jésus. Allongé, voilà. Et je vous fais remarquer que cette position nous fait comprendre mieux pourquoi Pierre dit à Jean, demande-lui qui est celui qui le trahira. Et Pierre dit, il demanda à celui, au disciple bien-aimé, qui avait la tête appuyée sur la poitrine de Jésus, simplement parce qu'il est allongé vers Jésus, vous voyez. Donc, du coup, on a effectivement cette posture. Et puis, vous voyez bien qu'on commence par la première coupe. Hein, le président il prononce une bénédiction sur la coupe et la partage avec les autres. Bénédiction de l'unique pain, hein, et il le distribue aux autres, et puis le repas festif. Et enfin, une bénédiction après le repas qui comporte, comme dit le texte, une triple prière de bénédiction, et donc trois strophes de bénédiction, j'y reviendrai, pour celui qui nourrit, pour la terre d'Israël, pour Jérusalem. Donc, le texte dit, prière traditionnelle, mais laissant une assez large marge d'improvisation à partir d'un schéma préétabli. Donc, nous sommes encore là dans une tradition orale. Vous savez que les Juifs, à cette époque, disaient qu'on ne pouvait pas écrire les prières, on ne pouvait pas mettre par écrit les prières. Il fallait les connaître par cœur ou le dire oralement ou les improviser, justement. Alors, très rapidement, vous verrez qu'effectivement, le témoignage de Luc reprend le même ordre. La colonne que je vous ai remise à côté des indications du repas juif montre bien qu'il y a là la perception de la mise en œuvre de la scène, la première coupe, le pain, le repas et la deuxième coupe. Ça y est. Je vous ai mis aussi un autre texte de la lettre aux Corinthiens au chapitre 10, celui dans lequel Paul, à nouveau, est témoin de cet ordre. La coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sein du Christ? Le pain que nous rompons. Donc, on a un ordre coupe, pain, et puis donc un seul pain avec, voilà, nous sommes un seul pain. Et je vous ai mis en dernière colonne le texte de la Didaké. La Didaké, je le répète, je l'avais dit peut-être il y a deux fois, quand nous parlions du baptême, c'est un des tout premiers textes chrétiens non néo-testamentaires. Donc, ils ne font pas partie du canon des Écritures. Il est daté des années 110-120 de l'ère chrétienne. Il est issu d'un milieu judéo-chrétien, c'est-à-dire d'une communauté chrétienne, mais d'origine juive. Chrétienne, mais d'origine juive. Et donc, comme il faut s'attendre, elle est encore témoin d'une Eucharistie qui suit le même ordre que la tradition juive. Mais c'est bien une Eucharistie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on a toute la terminologie de l'Eucharistie chrétienne. Là où il est dit, on ne parle pas de repas, on parle de « pour l'Eucharistie, rendez grâce de cette manière ». On pourrait même, s'il fallait traduire littéralement le grec, on pourrait dire « pour l'Eucharistie, eucharistiez de cette manière ». La même racine, il y a la même racine pour le verbe et pour le substantif. Et vous voyez bien qu'ils disent d'abord sur la coupe. On retrouve l'ordre coupe, pain et coupe. Donc après vous être rassasié, la deuxième coupe. Et donc là, nous avons les toutes premières prières chrétiennes eucharistiques. Là, vous voyez qu'on dit « Nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as révélé par Jésus, ton serviteur. » Et puis, sur le pain, « Nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélé par Jésus, ton serviteur. » Vous voyez que dans ces expressions, on trouve bien un strate juif, hein, David, ton serviteur, mais la deuxième partie est tout à fait chrétienne. Cela, tu nous l'avais par Jésus. C'est pareil, hein, la connaissance que tu nous révélais par Jésus. Et enfin, cette belle prière, hein, extraordinaire, c'est une des bijoux de la tradition chrétienne. Comme ce pain rompu, disséminé sur les montagnes, a été rassemblé pour être un, que ton Église soit rassemblée de la même manière des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi appartiennent la gloire et la puissance par Jésus-Christ dans les siècles. Ce sont les formulaires de prière. Et après, il y a des indications pour la participation à l'Eucharistie. Et là, le texte chrétien dit « Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie en dehors de ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur. » Donc, vous voyez bien l'ordre « baptême, Eucharistie ». On ne peut pas participer à l'Eucharistie si on n'a pas été baptisé. Et pour fonder cette indication sur la parole de Jésus, on prend une parole assez forte, hein, « car le Seigneur a dit « ne donnez pas ce qui est saint aux chiens ». Ça vient de l'Évangile, ça. Ne donnez pas les perles aux porcs, je crois qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu. Donc, on veut fonder cette indication sur une parole de Jésus. Je mis entre crochets parce que le texte ne dit pas qu'il y avait un repas, mais on peut penser qu'il y avait à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on dit par la suite, « Après vous être rassasiés, rendez grâce de cette manière ». Alors, de quel rassasiement s'agit-il? De l'Eucharistie que l'on vient de célébrer ou d'un repas festif entre-temps? On ne peut pas le savoir. Ce qui est évident, c'est qu'on interprète un après-repas, un après-Eucharistie. Et là, nous retrouvons, comme par hasard, une triple action de grâce avec première strophe, vous le voyez là. Deuxième strophe et troisième strophe dans laquelle les Juifs disaient on fera mémoire de Jérusalem. Et là, on fait mémoire de l'Église. Jérusalem est devenue l'Église, vous voyez. Et enfin, je terminerai par ça. Nous avons là, au verset 6 de cette dernière partie, les premières acclamations chrétiennes. Vous voyez, la première est la suivante, « Que la grâce vienne et que ce monde passe ». Nous sommes là dans une urgence du monde qui doit passer parce que le Christ doit revenir très vite pour les premiers chrétiens. Hein, doit revenir dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques… voilà. Et puis, l'acclamation « Hosanna au Dieu de David », on le connaît, une injonction, si quelqu'un est saint, qu'il vienne, si quelqu'un ne l'est pas, qu'il fasse pénitence. Et puis, la belle prière « Maranatha, Maranatha, Amen ». Je rappelle toujours que « Maranatha », comme je le dis, « Marana » veut dire « Seigneur »,« Marana »,« Ta », c'est le verbe venir en araméen. Et suivant qu'on le vocalise, et nous sommes là dans une langue sémitique, souvent qu'on vocalise ta d'une manière ou d'une autre, le verbe, l'expression pourrait dire le Seigneur vient, comme une confession de foi. Je le sais, le Seigneur vient. C'est une confession de foi. Mais ça pourrait aussi dire, si on le vocalise autrement, viens, s'il te plaît, Seigneur, viens. Ça rappelle le jusqu'à ce qu'il vienne dont je parlais tout à l'heure, voyez, jusqu'à ce qu'il vienne. Et puis, regardez, laissez les prophètes rendre grâce autant qu'ils le voudront. Ça fait écho à ce que l'on avait trouvé tout à l'heure, prière traditionnelle, mais laissant une assez large marge d'improvisation à partir d'un schéma préétabli. Là, les prophètes, c'est l'appellation que l'on donne aux chrétiens missionnaires itinérants qui vont de communauté en communauté et qui probablement présidaient la célébration de l'Eucharistie. Et donc, là encore, on dit « laissez les prophètes, ceux qui président l'Eucharistie, et s'exprimer, rendre grâce comme ils le veulent, librement, oralement, voyez, sans un texte. Hein. » Donc, nous sommes dans la même ambiance d'une tradition juive, mais judéo-chrétienne dans le cas précis, et nous verrons la prochaine fois, à partir du témoignage de Justin, que par contre, le témoignage de Justin nous ramène, nous conduit à une témoignage d'une Eucharistie tout à fait chrétienne, n'ayant plus des repères, il y en a quelques-uns, mais très, très mis à jour, plus de repères juifs. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. Reprenez ces textes, et puis pour les voir en comparaison, et puis lisez le texte qui vous sera envoyé du groupe des Dombes, dont nous parlerons aussi la prochaine fois. J'arrête le partage. Il ne me reste que vous remercier et vous souhaiter une bonne nuit.
Merci à vous, Père.
Merci à vous.
Merci, Père. Bonne nuit. Merci.
Bonne nuit.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.